OK, on en est à notre 20e leçon sur notre série sur la théologie systématique. Alors aujourd'hui, on va voir l'attribut de Dieu, la justice de Dieu. On sait que Dieu est parfaitement et infiniment juste. On peut dire de cet attribut-là qu'on a tendance à l'ignorer, à mal le comprendre ou à en tordre le sens et à en avoir une conception qui est mal équilibrée. Alors, il faut souvent revenir aux Écritures dans le cas de ces attributs-là, comme la sainteté, la justice de Dieu, parce qu'on a trop tendance aujourd'hui à mettre trop l'emphase sur l'amour, la miséricorde, les aspects de Dieu qui font notre affaire. Les aspects de Dieu qui font moins notre affaire, ça, on les néglige, on les tord ou on les oublie. Alors, la première chose qu'on va remarquer sur la justice de Dieu, c'est comme l'ensemble de ces autres attributs qu'on a regardés. On dit qu'elle lui est essentielle. Donc, essentielle, ça veut dire qu'elle fait partie de sa nature. Dieu en lui-même n'est que justice. Il est justice. La deuxième chose, c'est que sa justice est reconnue par toutes ses créatures rationnelles. Donc, toutes les créatures qui ont une intelligence, qui ont une raison, les hommes ou les anges, soient bons ou mauvais, les hommes bons ou mauvais, reconnaissent que Dieu est juste. Ou du moins, s'ils ne le reconnaissent pas maintenant, ils vont le reconnaître un jour, parce que les Écritures nous enseignent que tous les êtres créés par Dieu vont un jour reconnaître sa parfaite justice. Donc, les anges bons et mauvais et les hommes bons et mauvais lui reconnaissent cet attribut. On va regarder quelques versets. Apocalypse 16, verset 5. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi qui es et qui étais, tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement. Alors on voit ici, c'est un ange qui parle et il dit au Seigneur, tu es juste. Exode 9, verset 27. Pharaon fit appeler Moïse et Aaron et leur dit, cette fois j'ai péché, c'est l'Éternel qui est le juste, et moi et mon peuple, nous sommes les coupables. Alors ici, on a le représentant de ceux qu'on pourrait considérer à l'époque comme étant les inconvertis, les méchants, l'Égypte. Le roi d'Égypte dit au Seigneur qu'il est le juste. Aussi Jérémie 12, verset 1. Tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi la voix des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? Alors, on pourrait allonger la liste et les Écritures nous enseignent de façon très claire que toutes les créatures rationnelles, soit les anges, soit les hommes, bons ou mauvais, reconnaissent ou vont reconnaître que Dieu est parfaitement et infiniment juste. Aussi, troisième point, on va affirmer le fait que tous affirment qu'il n'y a aucune injustice en lui. Psaume 92, versets 14 et 15, « Ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. » Romains 9, 14, « Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il de l'injustice en Dieu? » Loin de là. Quatrième chose, elle lui est nécessaire pour gouverner et juger toute la terre. Bien sûr, on connaît, on a une conception de Dieu. Comment Dieu pourrait-il gouverner sagement la terre s'il n'était pas un Dieu juste? Sans l'exercice permanent de sa justice, il ne serait pas digne d'être le gouverneur de l'univers et le juge de toute la terre. Son gouvernement ne serait que tyrannie. Dieu, avec la puissance qu'il a, s'il n'avait pas l'attribut de la justice qui fait partie de sa nature, c'est sûr qu'à ce moment-là, ça ferait une personne qui serait... Alors, le psaume 97, versets 1 et 2, « L'Éternel règne, que la terre soit dans l'allégresse, que les îles nombreuses se réjouissent, les nuages et l'obscurité l'environnent, la justice et l'équité sont la base de son trône. Alors, le Seigneur règne, mais ça dit la base de son trône, c'est la justice et l'équité. Autre point, elle lui est naturelle. Dieu aime la justice et il l'exerce de façon continuelle. Psaume 11, verset 7, « Car l'Éternel est juste, il aime la justice, les hommes droits contemplent sa face. » Psaume 9, verset 4, « Car tu soutiens mon droit et ma cause, tu sièges sur ton trône en juste juge. » Autre chose qu'on peut mentionner, c'est qu'elle possède plusieurs facettes. Donc, la justice de Dieu possède plusieurs facettes. Première facette, c'est qu'elle est non dérivée d'un autre. Nous, si on exerce la justice envers nos semblables, c'est parce que Dieu nous a donné ça. Donc, notre justice dérive de Dieu. Mais lui, sa justice ne dérive de qui que ce soit d'autre que lui-même. Alors, Adam, comme un exemple, a été créé juste, mais il tenait sa justice de Dieu. Les saints, les élus, sont déclarés justes, mais ils la reçoivent par imputation. Donc, c'est-à-dire que Dieu la met sur leur compte. Dieu dit de nous qu'on est juste, mais pas parce qu'on est juste en nous-mêmes. On est juste de la justice de Christ, à cause de l'œuvre de Jésus-Christ. Autre facette, c'est qu'elle est en lui-même et de lui-même. Autre facette, elle est incommunicable. Il y a certains des attributs de Dieu, quand vous allez étudier dans des livres en détail sur les attributs de Dieu, il y a des attributs de Dieu qui sont révélés comme étant communicables, c'est-à-dire que Dieu peut nous révéler en partie qu'est-ce que c'est l'exercice de cet attribut-là. Mais l'attribut de la justice de Dieu, elle est incommunicable, c'est-à-dire que Dieu ne pourrait pas nous rendre juste comme lui est juste. Il y a seulement lui qui est juste comme ça. Donc, il ne peut pas communiquer cet attribut-là pleinement à un être créé, parce que ça ferait de lui Dieu. Alors, elle est incommunicable. Elle est infinie aussi. Donc, on parle, c'est sûr que chaque attribut de Dieu qu'on a mentionné jusqu'ici, l'attribut est infini. Il n'y a aucune forme d'injustice en Dieu. Autre chose, elle est immuable. Alors, chacun des attributs de Dieu aussi est immuable, dans le sens qu'un attribut de Dieu ne change pas, ne changera jamais. Alors, dans le psaume 36, verset 7, « Ta justice est comme les montagnes de Dieu, tes jugements sont comme le grand abîme. Éternel, tu soutiens les hommes et les bêtes. » Et autre et dernière facette, c'est qu'elle est trinitaire, comme les autres attributs, parce que c'est sûr que s'il y a trois personnes en Dieu, chacune des personnes a pleinement chacun des attributs de la divinité. Donc, Dieu le Père est juste. Jean 17, verset 25. Ici, c'est le Seigneur Jésus qui parle et dit « Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. » Alors, Dieu le Fils dit de Dieu le Père, « Père juste ». Dieu le Fils est juste. 1 Jean 2, verset 1. « Mes petits-enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Et Dieu le Saint-Esprit est juste, Jean 16, verset 8, « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Pour qu'il puisse convaincre le monde de justice, il faut qu'il soit lui-même juste. Maintenant, ce qu'on a fait, on a regardé le fait que la justice appartient à Dieu seul, dans sa plénitude. Deuxième point qu'on va regarder, c'est les sortes de justice divine. Alors, la première chose qu'on peut mentionner, c'est que Dieu rendra très certainement à chacun ce qui lui est dû. Il le fera pour sa propre gloire. Sa justice s'exerce envers ses créatures par les lois de la création, en les gouvernant avec équité, en disposant d'eux selon son bon plaisir et en leur dispensant des soins. La première sorte de justice de Dieu, c'est celle qu'on appelle la justice commutative. Lorsque l'intérêt et l'intégrité dans les alliances humaines, le commerce et les transactions par lesquelles l'argent ou les biens que l'on donne sont équivalents en valeur à ce que l'autre reçoit, il y a justice. Mais cette sorte de justice est une grâce de Dieu et elle ne s'applique pas dans les rapports entre Dieu et les hommes. Autrement dit, ce qu'il est en train de dire, c'est quand il y a quelque chose de juste qui se passe sur la terre, disons que j'achète un objet, une automobile, et on me vend l'automobile au prix qu'elle a un prix régulier, que le vendeur n'essaie pas de m'avoir ou quoi que ce soit. Dans tous les rapports qu'il y a entre les humains, dès que quelque chose qu'on considère que c'est juste, c'est une grâce de Dieu. Donc, c'est la justice commutative. Elle part de Dieu, de sa grâce, et elle s'exerce sur l'humanité. Psaume 116, verset 12. « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? » Romains 11, 35. « Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? » Donc, la première, c'est la justice commutative. Elle s'exerce surtout au niveau des rapports entre les hommes. Et la justice rétributive, c'est une autre forme de justice de Dieu. La rétribution, en lisant votre écriture, vos écritures, vous pouvez prendre le thème, par exemple, de la rétribution. Et de regarder comment le Seigneur l'a exercé au cours de toute l'histoire, dans toute l'histoire de la Bible. On va prendre un exemple. Dans le livre des Juges, il y avait un roi qui, lorsqu'il rentrait en guerre avec d'autres nations, ce qu'il faisait, c'est qu'il leur coupait les pouces et les gros orteils des pieds, puis il les laissait manger les miettes en dessous de sa table. Quand le Seigneur a permis que ce roi-là se fasse prendre à son tour, ben on lui a coupé les pouces et les gros orteils. Alors, la loi de la rétribution, ça veut dire que souvent, le Seigneur va utiliser le même moyen que toi, tu as utilisé envers les autres, il va l'utiliser envers toi. Et c'est vraiment remarquable dans les Écritures, quand on se met à regarder toutes les histoires, comment l'Éternel utilise souvent le même autre exemple, David, avec Bathsheba. Il avait fait son péché publiquement, et le Seigneur a permis que son fils agisse envers lui de la même façon. Et ça, c'est une loi qui, elle n'est pas marquée quand vous allez rencontrer vos Écritures. Ici, c'est la loi de la rétribution. Mais si vous l'avez à l'esprit et que vous y pensez, c'est dans une multitude d'histoires bibliques, très intéressant de noter ça. Alors, il faut garder, Dieu est juste dans ses récompenses. Le premier point. Donc, la rétribution, ça peut être aussi bien dans la récompense que dans la punition. Bon, on va commencer par regarder la question « Dieu est juste dans ses récompenses ». Cependant, il faut toujours garder à l'esprit que ces récompenses sont toujours des grâces, donc des faveurs déméritées, et jamais sur la base de nos mérites. Par exemple, le Seigneur nous dit dans les Écritures qu'il va nous récompenser pour les bonnes actions qu'on a faites. Il n'était pas obligé de le faire. Donc, il le fait, il est juste dans ses récompenses, mais souvent, par grâce, il va nous récompenser plus que ce qu'on aurait mérité. Alors, c'est toujours de retenir l'idée que Dieu, même dans ses récompenses, peut souvent nous donner plus qu'on aurait mérité en réalité. Jacques 1, verset 12. Heureux l'homme Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Oui, le Seigneur permet des épreuves dans nos vies, puis il nous dit que si on est patient dans notre épreuve, il va nous accorder un jour la couronne que celui appelle la couronne de vie, et il l'a promis. Bon, c'est sûr que quand on va traverser l'autre côté, que le Seigneur va nous donner les récompenses à cause de nos bonnes actions, il n'en oubliera aucune. Le Seigneur, c'est le meilleur comptable de tout l'univers. D'ailleurs, c'est le seul comptable qui ne se trompe jamais. Il retient absolument tout, Et quand vous avez fait quelque chose de bien, vous allez vous recevoir votre récompense pour ça. Colossiens 3, verset 24. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Tu sais, il y aurait des sermons magnifiques, glorieux à faire juste sur ce passage-là. Ce que c'est en train de nous enseigner, c'est que peu importe ce qu'on fait, qu'on lave la vaisselle, qu'on balaye un plancher, il dit bien tout ce que vous faites. Alors, quand on fait quelque chose, il nous dit de le faire de bon cœur. Et il nous dit de le faire comme si on le faisait pour le Seigneur. Je me souviens, moi, je ne suis pas un gars que j'aime bien gros laver des vitres au printemps. Puis je me souviens que des fois, je me disais, le Seigneur, il nous dit, faites tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme si vous le faisiez pour moi, pour le Seigneur. Alors, quand tu commences à laver tes vitres, puis tu te rends ça dans la tête, tu dis, ah, là, je ne lave pas les vitres, ça m'écœure de faire les vitres, mais je le fais pour le Seigneur. Et quand tu le fais de bon cœur, le Seigneur il dit, tu vas recevoir ta récompense. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on pourrait appliquer dans la dans l'exercice de quelques métiers que ce soit qu'on fait. Et de, pas juste dans notre métier, dans chez nous, dans notre maison, je ne sais pas, moi, disons qu'on n'aime pas faire la vaisselle, qu'on se rentre dans la tête, Colossiens 3, 24, d'ailleurs, ce sera un bon verset, 3, 23, Colossiens 3, versets 23 et 24, ce sera des versets excellents à mémoriser, parce que c'est des versets qui sont pleins de choses pratiques si on les met dans nos vies. Hébreux 6, verset 10, « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. » Moi, je me souviens d'avoir déjà lu une fois, ça m'avait frappé, ça ne fait pas tellement longtemps, 4 ans. Je lisais un livre puis il disait, « Chaque fois que vous rendez un service à un saint, » Alors, quand on est dans une église, on se rend des services entre nous. Et le Seigneur, il dit, pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. D'ailleurs, il dit, chaque fois que vous avez fait la plus petite chose en le faisant à cause de mon nom, c'est comme si vous l'avez fait à lui en personne. Ça, c'est spécial aussi. Disons, tu vas juste reconduire quelqu'un avec ton auto. Mais le gars, ce que j'avais trouvé remarquable dans son livre, c'est qu'il disait, si on savait et si on comprenait véritablement ce que le Seigneur est en train de nous dire, on courrait après les occasions de servir nos frères et sœurs. Parce que quand on fait ça, le Seigneur nous dit que dans le fond, ce qu'on est en train de faire, on est en train de le servir lui personnellement. Mais c'est une idée qu'on dit comme ça, là. On l'a déjà lu dans les Écritures, mais c'est pas toujours de cette façon-là, par exemple, qu'on l'exerce quand on fait quelque chose pour les autres. Parce que ça nous aiderait à multiplier les occasions, à chercher des occasions de servir. 2 Timothée 4, verset 8. « Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Donc, on vient de voir, Dieu est juste dans ses récompenses. Maintenant, Dieu est juste dans ses punitions aussi. La justice de Dieu s'est exercée à toutes les époques. Au déluge, dans les plaies d'Égypte, sur les anges déchus. Et là, on pourrait faire une liste extrêmement longue où on voit le Seigneur exercer des formes de justice dans ses jugements envers les hommes. 2 Thessaloniciens 1, verset 6. « Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. » L'Éternel, le Seigneur, nous dit que lorsque des gens nous affligent à cause de notre foi, Dieu est juste en permettant que les personnes qui nous affligent soient elles-mêmes affligées. Des fois, les personnes ne s'en rendront pas nécessairement compte sur le coup, mais l'affliction qu'ils vivent, c'est parce qu'ils ont fait connaître des afflictions aux autres. Voyez-vous la loi de la rétribution? Ils affligent les autres, le Seigneur leur envoie des afflictions. Des fois, ils ne le perçoivent pas nécessairement. Je me souviens une fois, on était en train de prêcher sur le coin de la rue, c'était en hiver à Québec. Et il y avait une femme qui avait fait une remarque très désobligeante à Lucie, vraiment très vulgaire. Et elle a voulu traverser la rue, et juste en traversant la rue, les deux jambes y ont levé. Puis elle a tombé, puis elle s'est faite vraiment mal. Je me souviens, elle s'est revirée, puis elle a regardé Lucie, puis dans sa tête, d'après moi, elle a fait un lien. Ce que vient de m'arriver est probablement relié à ce que je viens de dire ou ce que je viens de faire. C'est spécial que le Seigneur fasse ça, il le fait d'une façon régulière. Et là, on pourrait multiplier ce type d'exemple-là. Autre exemple qui me vient à l'esprit comme ça, durant le temps de Jonathan Edwards et d'autres grands prédicateurs comme ça dans le passé, semble-t-il qu'il y avait des gens, vu qu'il y avait beaucoup de succès, le Seigneur leur donnait beaucoup de succès en leur donnant des âmes lorsqu'ils prêchaient. Il y avait toujours des personnes qui les suivaient pour des moqueurs. Alors, il y en a, semble-t-il, qui se déshabillaient, ils pouvaient uriner devant le monde. C'était comme, ils faisaient exprès pour rire de la personne, se moquer de lui. Et il y a des. J'avais lu un endroit où un prédicateur prêchait comme ça, puis il y avait un jeune, il tournait autour de lui, en courant autour de lui, puis il se moquait de lui, en niaisant pour essayer de distraire les gens, puis faire en sorte qu'ils n'écoutent pas le sermon. Et il tournait comme ça, puis il se moquait, et le prédicateur a dit un verset, et la personne a fait et là, elle s'est convertie, drette là, en se moquant. Moi, je vois ça comme la loi de la rétribution de Dieu, le moqueur devenait le moqué. Parce que lui se moquait du prédicateur, puis Dieu a fait en sorte qu'il ait été converti en se moquant. Imagine-toi devant les autres, qu'est-ce qu'il avait l'air? Il avait l'air fin, là. Dieu lui exerçait une grâce alors qu'il se moquait d'un prédicateur. Moi, je trouve que c'est des affaires, j'appelle ça des clins d'œil de Dieu, je trouve ça merveilleux. Apocalypse 16, versets 5 et 6. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, « Tu es juste, toi qui es, qui étais, tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement, car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils en sont dignes. » Voyez-vous, ils ont versé du sang, la manière dont ils sont punis par le sang, boire du sang. Et Apocalypse 19, versets 1 et 2. « Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte, d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. » Justement, l'exemple de la grande Babylone, la grande prostituée, elle était devenue extrêmement riche à cause de ses impuretés, à cause de ses prostitutions. Et le Seigneur l'a jugé en permettant qu'elle perde toutes ses richesses. Alors, voyez-vous, quand on pêche par la richesse, on est souvent rétribué par le même moyen. Alors, la loi de la rétribution, c'est à remarquer parce que si quelqu'un pêche par orgueil, le Seigneur va l'humilier. Si quelqu'un pêche par avarice, il va faire en sorte qu'il va perdre l'argent. C'est toujours par le même, le péché, de la manière que c'est exprimé, le Seigneur se sert du même, de la même chose pour le corriger ou pour le punir. Autre chose, la justice est essentielle. Essentielle dans le sens que Dieu ne pourra pas être Dieu s'il n'était pas juste. Dieu se doit de punir le péché. L'essence de Dieu, c'est ce qui fait ce qu'il est. C'est l'ensemble de son caractère constitutif. C'est ce qui est invariable en lui. La justice de Dieu se manifeste de plusieurs manières. Une des manières, c'est la conscience. Les Écritures nous enseignent que les hommes, peu importe du pays, de l'époque dans laquelle tu as vécu, les hommes savent quand ils font le bien ou quand ils font le mal. Et un des moyens que Dieu se sert pour ça, c'est la conscience. que quelqu'un vive dans le fin fond de l'Afrique ou dans le fin fond de la Chine qui n'a jamais entendu parler du Seigneur, quand il vole, il sait qu'il fait mal. Pourquoi? Parce que Dieu a mis dans sa conscience, à l'intérieur même de son être, une loi qui est l'équivalent du décalogue, des 10 commandements, et qui fait en sorte que la personne, quand elle fait mal, elle le sait qu'elle fait mal. Alors, Romains 2, versets 14 à 16, « Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. » Alors, les hommes vont tous reconnaître un jour, quand ils vont juger leurs actions secrètes, ils vont dire « Ah, j'ai pas la Bible, j'avais pas la Bible, je ne savais pas. » Personne ne va pouvoir dire ça parce que leur conscience leur disait que ce qu'ils faisaient était mal. Aussi, elle se manifeste, donc la conscience est un moyen, la parole de Dieu en est un autre, Exode 34, versets 6 et 7. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. » Voyez-vous, les péchés des pères finissent par exercer une influence que Dieu va permettre que ça aille jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais pour ceux qui appartiennent à Dieu, sa miséricorde va s'exercer jusqu'à 1000. Et vous, quand il y a peut-être eu quelqu'un dans notre passé, dans notre arbre généalogique, qui a fait du bien, je ne sais pas moi, disons en France, là, 300 ans, 300 ans, 400 ans, puis peut-être qu'on est encore béni à cause d'un geste qu'un de nos parents a fait dans le passé. Je me souviens, par exemple, quand j'ai lu la biographie de Jonathan Edwards, il y a certains savants qui ont fait une étude de ce qui était arrivé à toute sa descendance. Alors, il y a eu des enfants, ses enfants ont eu des enfants, c'était en 1700, donc il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et ils se sont rendus compte que la majorité de la descendance de Jonathan Edwards ont tous été bénis de différentes façons, sont devenus des serviteurs de Dieu ou des choses comme ça. Alors, quand Dieu accorde la grâce à quelqu'un, ça peut dire que même nos enfants, les enfants de nos enfants, et là, le Seigneur, il va loin, jusqu'à 1000 générations. La bonté de Dieu, c'est comme... est grande. Nombre 14, verset 18. « L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent. » Et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Nahum 1, verset 3, « L'Éternel est lent à la colère, il est grand par sa force, il ne laisse pas impuni. L'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon, les nuées sont la poussière de ses pieds. » Donc la conscience, la parole de Dieu, aussi par sa nature divine. Hébreux 12, versets 28 et 29, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte, car notre Dieu est un feu dévorant. Autre façon par laquelle le Seigneur exerce sa justice, c'est par la loi de Dieu, qu'on appelle aussi le décalogue ou les 10 commandements. Romains 3, 20, « Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Aussi, elle s'exerce, et celle-là, on n'aura jamais fini de la méditer, par la punition infligée à Christ par substitution. S'il nous était donné de vraiment comprendre ce qui s'est passé à la croix, quand Dieu le Père a jugé nos péchés sur son Fils, la justice qui se manifestait dans cet événement-là est quelque chose d'infini. Quand on parle qu'un jour, Dieu va permettre qu'on comprenne davantage ce que Christ a fait pour nous, en acceptant de subir notre punition, notre place, un jour, on va découvrir un petit peu plus la souffrance que le Seigneur Jésus-Christ a accepté de supporter, pas parce qu'il était coupable lui-même, aucunement, parce que nous étions coupables, mais lui a subi le châtiment que nous aurions dû subir à notre place. Et un verset à méditer qui est un verset où on dit que tout l'Évangile est dedans. Un verset à utiliser souvent on dit par exemple l'Évangile en capsule, un seul verset, l'Évangile tout long. 2 Corinthiens 5, 21. Ça dit « Celui qui n'a point connu le péché ». Alors dans le contexte, c'est clair que celui qui n'a point connu le péché, c'est la personne de Jésus-Christ. Ça dit « Il l'a fait devenir péché pour nous ». Qui « il » ? « Il » dans le contexte, c'est Dieu le Père l'a fait devenir péché pour nous. Alors le côté de prendre la punition à notre place. Afin que, dans le but de, que nous devenions en lui justice de Dieu. Les deux aspects sont là. À la fois que Jésus-Christ a subi notre châtiment à notre place, et aussi dans la deuxième partie du verset, afin que nous devenions en lui justice de Dieu, c'est lui qui a parfaitement accompli le décalogue, la loi, les 10 commandements. Il le fait à notre place encore. Alors, dans le verset 2 Corinthiens 5, 21, tu as vraiment l'Évangile au complet en capsule, qu'on pourrait dire, c'est comme en résumé. Très excellent verset pour utiliser quand on évangélise, parce que quand on l'explique, on dit « celui qui n'a point connu le péché », on peut aller dans le contexte puis voir de façon très claire que celui, c'est Jésus-Christ, qui n'a point connu le péché, alors on reconnaît son impeccabilité. Il n'avait pas de péché et il l'a fait devenir péché pour nous. On sait que c'est vraiment la question qu'il a subi notre châtiment à notre place. Et la deuxième partie, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. La troisième point qu'on va regarder, c'est le déploiement de la justice divine. La justice de Dieu est déployée, premièrement, dans toutes ses voies et dans toutes ses œuvres de la Providence. La Providence, on l'a répété deux ou trois reprises depuis qu'on fait la Providence, c'est tous les événements qui arrivent au cours d'une journée. Et non seulement au cours d'une journée en particulier, mais toutes les journées. Tout partout ce qui se passe, dans nos vies, dans la vie politique, dans la vie, tout ce qui se passe. Dieu dit qu'il y a de la justice là-dedans. Nous, quand on regarde ce qui se passe dans le monde, on ne voit pas nécessairement que c'est un acte de justice de Dieu. Cependant, les Écritures sont claires. Dieu nous dit qu'il est juste dans toutes ses voies et dans toutes les œuvres de la Providence, donc dans tout ce qui arrive sur la terre. Si on ne le voit pas, c'est parce qu'on médite pas assez sur la parole. Apocalypse 15, verset 3. Et il chante le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voix sont justes et véritables, roi des nations. » Toutes ces voix, ces voix. Genèse 18, verset 25. « Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. « Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? » Nul ne peut accuser Dieu d'injustice. Ézéchiel 18, verset 29. La maison d'Israël dit « La voix du Seigneur n'est pas droite. Est-ce ma voix qui n'est pas droite, maison d'Israël? Ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites? » Alors, ici, on a la folie du peuple de Dieu qui accusait le Seigneur de pas être droit dans ses voies. Alors le Seigneur leur dit, « Hey, c'est pas vous autres plutôt que vous n'êtes pas droit dans vos voies. » 1 Corinthiens 11, verset 32. « Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. » vous rappelle, ici, on a 1 Corinthiens 11, 32, dans le contexte, c'est vraiment le contexte du repas du Seigneur. Et il est en train de nous dire qu'il y a certaines personnes dans l'assemblée de Corinthe qui avaient pris le repas du Seigneur sans en comprendre le sens et en le prenant d'une manière légère. Et le Seigneur avait dit qu'à cause de ça, il avait envoyé des jugements. Et oui, là qu'on voit la justice de Dieu, pas juste sur les inconvertis, il envoie des jugements aussi sur les convertis. Et il y en avait parmi eux qui étaient devenus infirmes, malades, et même certains étaient morts. Alors, quand on reprend le repas du Seigneur, il faut vraiment prendre ça sérieusement, parce que si le Seigneur l'a fait au sein de l'Église de Corinthe, il peut le faire aussi au sein de l'Église de Rouen. Ça, c'est sûr. Alors, il faut faire attention pour ne pas prendre ça à la légère, parce que le Seigneur n'aime pas ceux qui prennent les choses saintes pour les rendre profanes. Psaume 113, verset 3 à 17. Ici, le contexte, c'est notre ami David qui avait de la misère à regarder autour de lui puis à voir qu'il y avait des gens qui étaient méchants, mais qui vivaient dans la prospérité, qui avaient l'air d'avoir des enfants en santé. Il avait l'air à tout bien aller, puis lui, il avait des épreuves une par-dessus l'autre. Et là, il dit que ça l'avait ébranlé, pas à peu près. Alors, dans le verset 3, ça dit « Car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi, l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent, ils parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur toute la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment et il dit, « Comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants. » Toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que je lavais mes mains dans l'innocence. Voyez-vous, il est en train de se demander que ça sert de vouloir servir l'Éternel. Ils sont mieux que nous autres. Alors, c'est là qu'il a réalisé, verset 14, « Chaque jour je suis frappé, tous les matins mon châtiment est là. Si je disais je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. » Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Voyez-vous, c'était quand même un homme de Dieu, David. Quand il regardait ces choses-là, il avait de la misère à comprendre. Il avait de la misère. La difficulté fut grande à ses yeux. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Comment qu'ils seront bénis sur la terre? Comment qu'ils auront des belles maisons, des beaux bateaux, plein d'argent, qui feront toutes ces choses-là, qui ont l'air bien heureux, qui ont l'air à pas avoir de problème? Quand j'ai réfléchi à leur sort final, parce qu'il le sait à cause de ses connaissances sur les Écritures, là, j'ai trouvé que, dans le fond, parce qu'il lui disait qu'il y avait des châtiments. Faut pas oublier que le châtiment, c'est une grâce que Dieu nous fait. Il nous corrige de certaines choses. Les châtiments que David a eus, c'était dans le but de le corriger de certaines choses qu'il faisait pas correctes dans sa vie. C'est sûr, quand il a couché avec la femme d'un de ses générales, et qu'après ça, il y a eu un enfant qui est mort à cause de ça, et tout ça, le Seigneur le corrigeait. Et à d'autres occasions aussi. Jérémie 12, versets 1 et 2. « Tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. » Pourquoi la voix des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? Tu les as plantés, ils ont pris racine, ils croissent, ils portent du fruit. Tu es près de leur bouche, mais loin de leur cœur. Donc, dans toutes ces voies, il est juste, et dans toutes ces œuvres de la Providence, et aussi dans toutes ces voies et ces œuvres de grâce. Et là, on pourrait allonger la liste et donner énormément de commentaires sur chacun des points. Je vais juste les nommer. La prédestination, qui à l'intérieur de la prédestination, il y a à la fois la doctrine de l'élection et de la réprobation. On ne peut pas, on ne doit pas questionner Dieu sur sa justice. Quand on commence à raisonner, « Ah, si Dieu a fait ça, il n'est pas juste. » Qui qu'on est? Quand Paul dit « Qui es-tu, toi, ô homme, pour questionner les voies de Dieu? On est des pécheurs, on est pourris à l'os, puis on ose questionner le Saint des Saints, le Roi des Rois, qui est juste dans toutes ses voies. Alors, il faut faire attention dans nos raisonnements théologiques, des fois, de ne pas tomber dans ce piège-là, parce qu'on peut facilement tomber là-dedans, plus particulièrement dans les doctrines comme celle de l'élection, de la réprobation. La condamnation des anges déchus, sa justice, c'est... on voit les œuvres de grâce dans le fait que sur l'ensemble des anges, il semble qu'il y en a seulement un tiers qui est tombé. Les deux autres tiers qui ne sont pas tombés, c'est une grâce de Dieu. Donc, la grâce de Dieu s'est manifestée dans ces choses-là. L'imputation ou le fait de mettre sur leur compte le péché d'Adam et sa postérité. Voyez-vous, ça, c'est une chose, on a de la misère. Quand on raconte dans Romains 5, 12, que quand Adam a péché, nous étions en lui et nous péchions nous aussi. On a de la misère, ça, parce qu'on se dit, comment je peux être rendu responsable d'un acte que Adam a fait alors que j'étais pas? On ne comprend pas nécessairement comment ça s'est fait, mais les Écritures nous disent que ça s'est fait. La seule chose qu'on a à faire, c'est de le croire parce que Dieu le dit, point final. Romains 5, 12, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Alors, quand on regarde ce verset-là, on se dit, Adam il a péché, c'est moi qui paye pour aujourd'hui. La Bible nous dit, quand on regarde dans le grec, qu'on va étudier ces versets-là en détail, ça dit que nous aussi, on était en lui. Et que si on avait été à sa place, on aurait fait exactement la même chose. Romains 3, versets 25 et 26, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans les temps présents, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Dieu. 1 Jean 1, 9, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. La justice de Dieu, l'attribut de la justice de Dieu, quand on l'étudie, elle se doit d'amener une transformation, un changement, une application, quelque chose qu'on se doit d'appliquer dans nos vies. On en reconnaît au moins trois dans le texte, on pourrait probablement en avoir beaucoup plus que trois. Premièrement, reconnaissons que Dieu est infiniment et parfaitement juste dans toutes ses voies, celle de la providence et celle de la grâce. Alors, si Dieu a décidé de faire grâce à un puis pas de faire grâce à l'autre, c'est pas de nos affaires. Il est parfaitement juste en faisant l'un comme en faisant l'autre. Deuxièmement, étudions davantage cet attribut de Dieu pour apprendre à le reconnaître dans toutes les saintes Écritures, dans les relations de Dieu avec les nations, dans les relations de Dieu avec son peuple d'Israël, dans les relations de Dieu avec l'Église et toute son histoire, et dans les relations de Dieu avec nous personnellement. Alors, qu'est-ce qu'on vient de dire là? C'est énorme. On dit, on pourrait reconnaître en étudiant l'histoire des hommes, des nations, et voir comment Dieu a jugé les nations quand ils étaient rendus, le mal était rendu à leur comble. On pourrait faire ça pour toutes les Écritures. On pourrait regarder l'histoire des relations de Dieu avec son peuple Israël et voir la même chose. On pourrait regarder toute l'histoire de l'Église et voir comment Dieu a agi dans l'histoire pour punir et pour promouvoir l'avancement de l'Évangile. Et aussi, on disait la dernière chose, dans nos propres vies. Comment Dieu a exercé de la justice dans nos propres vies et qu'il continue à en exercer tous les jours. Troisièmement, puisque Dieu est juste, faisons tous nos efforts pour agir nous-mêmes en prenant Jésus-Christ comme modèle dans toutes nos pensées, dans toutes nos paroles et dans toutes nos actions. Demandons la grâce de la crainte de Dieu. Alors, si on veut être juste dans nos pensées, si on veut être juste dans nos paroles, si on veut être juste dans nos actions, c'est sûr que par nous-mêmes, on ne peut pas avancer beaucoup sans que la chose vienne de Dieu lui-même et à cause de Jésus-Christ. Alors, c'est important. Si on veut agir justement, penser justement, parler justement, il faut demander à Dieu la grâce de faire ces choses-là. Que l'Éternel soit béni, loué et adoré pour sa gloire.
Amen.
Ça.